Bonjour tout le monde et bienvenue à la table du débat de midi dressé tout cet été encore sur l'antenne de France Inter et à laquelle je suis ravie de vous accueillir, que vous soyez déjà en train de buller, petit chanceux, en train de travailler ou faire ce que vous voulez. Une heure de débat tous les jours jusqu'à 13h avec curiosité et bonne humeur. Et aujourd'hui, du peps, du piment, du croquant, du gourmand, puisqu'on parle gastronomie, sujet hautement universel et même sacré chez nous, vous le savez, dont les grands restaurants sont les vitrines, peut-être même les gardiens ou les musées avec nappes blanches, argenterie, brigades et services à la française. Image cliché, toujours d'actualité, mais bousculée depuis de nombreuses années avec d'abord l'apparition de ce qu'on a appelé la bistronomie, concept censé rendre la grande cuisine plus accessible, mais aussi bousculée par les nouveaux codes moins guindés et plus instagrammés d'une nouvelle génération de chefs starisés par la télé. La haute gastronomie fait rêver, saliver, mais peut-elle et doit-elle se populariser? À qui sont réservées les grandes tables? Allez, asseyez-vous, l'addition, elle est pour moi.
Camille Crenier, le débat de midi sur France Inter.
J'ai un principe en cuisine, tous les produits sont égaux.
Apportez-moi le peps nécessaire là. Le goût, hein.
J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des mimosas, je voulais de l'estragon.
Dans le mimosa, du persil et des oignons, jamais d'estragon. Vraiment, c'est pas bon.
Donc je vais vous demander de cuisiner avec un grain de riz.
La simplicité impose la perfection.
Les gens pensent que la grande cuisine c'est pour les snobs et que donc les chefs aussi sont des snobs. Mais pas du tout. Nous sommes des artistes, des pirates.
J'arrive dans un restaurant tellement chic, tellement classe, que personne ne parle. Tu connais ces endroits? Je me suis assis, on avait chacun 5 assiettes, 6 couteaux, 7 verres, 9 fourchettes. J'ai appelé le serveur, je lui ai dit « Oh, on est que deux !»
Et le cocktail américain, c'est quoi?
C'est un cocktail grillé avec une sauce américaine, tomates, échalotes, une pointe de cognac, du vin blanc, c'est un peu relevé.
Ça va vraiment être onctueux, crémeux, avec ces grains de riz qui vont éclater sous les dents, donc vraiment un instant de gourmandise.
Je vais voir la carte des vins.
Faudrait commencer à dresser, quoi, tu vois ce que je veux dire?
Allez, vite, les gars. Allez.
Allez, ça se termine dans 5, 4, 3. Top, c'est terminé. Allez,
hop, on lève les mains et autour de la table, il n'y a que des pros de la cuisine, sauf moi. Chloé Charles, Yves Candebord, Bruno Verjus et François-Régis Gaudry. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Camille.
Chloé Charles, vous êtes chef indépendante. Vous vous présentez comme une gourmande libre. C'est vous bon. Signez la carte du musée Carnavalet à Paris cet été. Et vous étiez candidate cette année de Top Chef, dont vous avez été éliminée à quelle étape?
Au milieu à peu près, la huitième semaine.
Yves Candebord, vous êtes chef de la brasserie Le Comptoir à Paris aussi. On vous présente un peu toujours comme le pilier, alors pas de comptoir, quoique, mais pilier de la bistronomie. Vous avez dit que vous vouliez que vos potes de rugby puissent goûter le genre de cuisine que vous faisiez au crayon. Et vous avez ouvert pour ça en août 92, le premier établissement du genre, la Régalade. Ils ont aimé vos potes de rugby, la cuisine du crayon?
Oui, a priori, ils l'ont aimé. Je suis encore là et encore présent. Donc ça a été une démarche de jouissance et de plaisir.
Ah, en face de vous, un cuisinier qui lui a une formation de médecin, c'est bien ça Bruno Verjus. Une étoile aujourd'hui au Michelin pour votre restaurant Table à Paris. Et vous signez ce livre paru en mai chez Flammarion, L'art de nourrir. Ça veut dire qu'un chef donc est un artiste selon vous?
Ça ne veut pas dire qu'un chef est un artiste, ça veut dire que nourrir est un art, ce qui est bien plus polysémique. Ça veut dire que nourrir, oui, c'est tout un art, et probablement d'ailleurs, pour la belle cuisine, comme j'aime la pratiquer, prendre soin.
Très belle définition. Et puis notre chef à nous, ici à France Inter, celui qui sublime n'importe quel produit et nous donne l'impression de l'avoir sur les papilles, rien qu'en l'écoutant, François-Régis Gaudry, producteur dont va déguster tous les dimanches à 11h, y compris cet été. Et puis d'une nouveauté, le samedi à 11h également, Saveur Savante. Alors, chaque épisode, c'est ça, est consacré à un goût.
Un goût, une saveur, oui.
Lequel vous préférez, vous, comme goût, le gras?
Moi, j'ai toujours eu un faible, ce qui explique peut-être mon amour pour la cucina italiana, un faible pour l'amertume. Mais évidemment, dans une assiette, tout réside dans l'équilibre entre l'acidité, le sucré, l'amer et l'umami et autres saveurs justement qu'on va explorer pendant tout l'été.
Alors bon, on parle donc de grande table aujourd'hui, on va donc poser les bases. J'aimerais d'abord savoir ce qu'est une grande table selon chacun d'entre vous. Vous n'avez peut-être pas la même définition. Chloé Charles, une grande table, c'est quoi pour vous?
Pour moi, c'est une table qui laisse des souvenirs. C'est-à-dire que tant dans l'ambiance que l'assiette, mais pouvoir se remémorer un moment passé, mais c'est un moment global. En plus, c'est pas seulement ce qu'il y avait dans mon assiette, c'est aussi un moment particulier. Après, ça veut aussi dire que je suis actrice de ce grand moment, parce que si je suis pas de bonne humeur ou que je suis pas forcément en bonne compagnie, ce moment-là peut être faussé. Donc, mais une grande table, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas forcément un. Enfin, comment dire, c'est ni le montant de l'addition qui le définit, ni
précisément ce que vous avez mangé, peut-être. C'est toute l'expérience, comme on dit en général.
Exactement.
L'expérience, je crois que c'est un mot que vous aimez pas trop, Bruno Verjus.
Alors oui, c'est peut-être pas s'apesantir là-dessus. J'aime pas l'expérience parce qu'elle appelle justement la l'espèce de liturgie qu'on trouve dans les émissions de cuisine à la télévision, c'est-à-dire la scénarisation qui souvent d'ailleurs est médiocre et fait plus penser finalement à des romans à l'eau de rose de gare qu'à quelque chose d'un peu intelligent, et ça me gêne toujours. Pour répondre à votre question, un restaurant de belle cuisine, c'est un restaurant où on va être accueilli, on va être embrassé, on sent qu'on va être aimé, on sent qu'on va vous faire du bien. Et ça va vous permettre de tout oublier, ce qui s'était passé avant, et de pouvoir justement être en état de recevoir ce qu'on va vous proposer. Et qu'est-ce qu'on va vous proposer? On va vous proposer une belle nourriture, simple, mais par exemple, qui va faire que vous allez avoir l'impression de manger pour la première fois de votre vie un homard, un turbo, un navet, une carotte, une betterave. Et ça va rester en vous, et ça va vous éclairer. Et aussi, on va vous prendre la main pour vous faire découvrir des choses que vous n'aimez peut-être pas habituellement. Parler de l'amertume, qui est la saveur la plus difficile à apprécier parce qu'elle nécessite un niveau d'exigence important. Et puis elle nécessite aussi de lutter contre son cerveau reptilien qui dit amertume égale danger, poison. Mm-hmm. Alors on va essayer justement de créer toutes ces conditions pour vous ouvrir à un monde nouveau et qui vous fait du bien.
Une grande table, Yves Candebord, c'est quoi? C'est l'inconnu? Est-ce que c'est forcément un luxe aujourd'hui? Puisque grande table, on l'associe évidemment à une forme de luxe.
Heureusement que non, que c'est pas un luxe, parce que sinon, je pense que malheureusement, ce serait trop réservé. Mais pour moi, une grande table avant tout, c'est les gens qui sont autour déjà. Voilà, c'est la première chose. Voilà.
Donc, on peut avoir une grande table dans son jardin.
Je peux considérer une grande table en mangeant un turbo chez Bruno, ouais, comme considérer une grande table comme mangeant un œuf mayonnaise. C'est l'émotion que tout ça va m'amener, parce que il y aura la même philosophie, la même précision pour une cuisson d'un turbo que la cuisson d'un œuf, et les gens qui sont autour feront que le moment, c'est un grand moment. Moi, je suis pas pour les grandes tables, je suis pour les grands moments. Voilà. Et un grand moment, on doit le passer, il doit y avoir un partage, il doit y avoir de l'émotion, il doit y avoir de l'amour, et aussi peut-être beaucoup de simplicité. Une grande table où je prends une leçon, qu'on m'explique que le produit d'où il vient, qu'on m'explique le poivre d'où il vient, ça m'intéresse pas trop. Mais je pense que le restaurant doit rester, la grande table doit rester quelque chose de très simple en finalité.
Vous dites ça vous intéresse pas trop qu'on vous explique d'où vient le poivre. François-Régis Gaudry, ça fait quand même partie du plaisir qu'on peut avoir à aller dans certains de ces restaurants. C'est pas la même chose d'aller au Troquet du Coin se prendre une omelette que d'aller découvrir certaines saveurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces grandes tables qui parfois sont mal aimées?
Ouais, je crois surtout que la grande table est une promesse. La promesse d'un moment particulier. La grande table n'a pas vocation uniquement à nourrir bien, ce qui est déjà, attention, une sacrée performance, mais elle a plutôt la capacité à procurer de grandes émotions, à fabriquer des souvenirs. Effectivement, aujourd'hui, on a un peu tendance à enfermer la grande table dans un certain niveau d'addition, dans un nombre d'étoiles Michelin, alors qu'on sait que les émotions que l'on peut rencontrer dans un restaurant ne sont pas proportionnelles à tous ces signes extérieurs de richesse ou de luxe, entre guillemets. Moi, des grands moments, j'en ai vécu dans des restaurants que je ne considère pas comme des grandes tables. Un seul exemple, j'étais il n'y a pas très longtemps à Turin. Vous allez dans cette petite trattoria qui s'appelle Antique Serre. Il faut prendre un taxi parce qu'on est vraiment très loin du centre. Vous arrivez dans une trattoria familiale qui existe là depuis, on ne compte plus les années. Vous avez cette patine laissée par le temps, cette atmosphère familiale, et j'y ai mangé le vitello tonnato, qui est une spectaculaire recette piémontaise, mais en même temps très simple, un des meilleurs de ma vie. Et puis j'y ai mangé également une panna cotta, autre dessert piémontais, vraiment très chouette, avec une addition qui était autour de 22-23 euros par personne.
Mais
vous voyez
là,
ce que je veux dire?
Yves Candebord,
il y a une chose, excusez-moi, qui me choque dans ce que tu dis, quoi. C'est qu'une grande table, sa fonction n'est pas foncièrement de bien nourrir, quoi.
Oui.
Alors, tu vois, alors moi, je suis complètement à l'opposé. Je trouve qu'un restaurant, la première des choses, moi en tant que cuisinier, c'est justement nourrir correctement les gens.
Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'une grande table est censée susciter aussi des émotions plus importantes. Ma première fois, par exemple, dans le début des années 2000, chez Michel Brass, pour lequel on a tous, me semble-t-il, un immense respect, 3 étoiles au Michelin, à l'Aïeul, etc., j'y ai pas eu le même niveau de sensation que des œufs maillots dégustés sur un coin de comptoir dans une brasserie parisienne. Aussi bien faits étaient les œufs maillots. Mais quand j'ai découvert effectivement son dessert à base de pommes de terre, son fameux moelleux au chocolat, vous entaillez avec
coulant,
un couteau
là,
et vous avez cette espèce de volcan magnifique de chocolat qui dégouline dans votre assiette. Quand vous dégustez le gargouillou, plat exceptionnel, une espèce de métaphore du paysage à manger. Effectivement, il y a des restaurateurs qui ont la capacité de nourrir bien, c'est le cas de Michel Brass, mais qui peuvent avoir l'ambition de faire monter le curseur des émotions.
Oui, mais pour moi, en fait, là-dedans, il faut aussi inclure justement l'expérience globale, à savoir qu'un restaurant, c'est pas seulement la cuisine, c'est aussi la salle et l'ambiance.
On va pas juste au restaurant pour se nourrir, c'est ça que vous dites.
Non, on y va pour passer.
Mais dans le cas de Michel Brass, il y avait le décor sur le bras, qui a aussi évidemment le.
Et il y a aussi tout ça. Après, moi, par exemple, j'ai passé un très bon moment plutôt chez Sébastien Brass parce que c'était il y a 2 ans. Et par contre, ce qui m'a choqué, c'est que j'y étais avec ma femme, on a 35 ans et on a été, entre guillemets, on a été traités comme des personnes de 70 ans qui venaient fêter leurs 50 ans de mariage. C'est vrai qu'il y avait un décalage.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, se faire traiter comme des gens de 70 ans?
C'était plat. Enfin, il y avait pas de, au niveau de la salle, même si je me suis éclatée et que je veux pas du tout, enfin, c'est pas du tout mon but de critiquer ce restaurant-là, mais c'est vrai qu'il peut y avoir dans ce genre de restaurant très guindé, c'était un rêve pour moi d'y aller, mais la salle est pas forcément en adéquation s'adapte pas à la clientèle qu'on est. Et c'est vrai que on parle énormément de la cuisine, mais pour moi aussi un grand restaurant, c'est aussi savoir s'adapter à qui est-ce qu'on a en face de soi, est-ce qu'on a justement ces personnes âgées qui veulent beaucoup de politesse parce que pourquoi pas. Il y a aussi des personnes âgées qui vont vouloir qu'on se marre avec elles, il va y avoir des jeunes gens qui viennent découvrir, il y a une possibilité
multiple.
Et c'est vrai que voilà, partir dans quelque chose de moins formel, peut-être que ça va aider.
Il y a justement un sondage Opinionway de 2019 dans lequel 40% des sondés déclaraient qu'ils ne sauraient pas, du verbe savoir, ne sauraient pas apprécier le restaurant s'ils y allaient. Et 51%, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Chloé Charles, qui craignent de ne pas se sentir à l'aise. Aujourd'hui, Bruno Verjus, dans un restaurant étoilé, vous avez un restaurant une étoile, il y a des codes comme ça, comme dit Chloé Charles, un petit peu guindé, il faut arriver bien habillé, etc. Et tout ça, ça peut être un frein pour justement apprécier quand on n'est pas habitué, et encore heureux que tout le monde ne soit pas habitué à ces restaurants.
Ben ça, c'est des spéculations complètes. Il y a des codes, si on a envie qu'il y ait des codes. Mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le mot expérience, on rebondit là-dessus, c'est exactement ça. C'est quoi une expérience? C'est un truc préfabriqué, comme la cuisine de beaucoup de restaurants doublement ou triplement étoilés, c'est-à-dire tout est fait à l'avance, et tout est servi comme ça, dans un protocole, comme si on était à l'hôpital. En réalité, c'est quoi un beau restaurant de belle cuisine? C'est un restaurant où déjà on va essayer de comprendre à qui on a affaire. On va recevoir les gens. On va le savoir un peu avant parce qu'on aura parlé avant avec eux au niveau des réservations. Ensuite, quand on les a sous la main, je dirais, on va parler avec eux, on va faire de la maïeutique, on va les accoucher doucement. Qu'est-ce qu'ils aiment? De quoi ils ont envie? Pourquoi ils sont là? C'est un anniversaire? C'est un rendez-vous? C'est un déjeuner d'affaires?
Oui, mais il y a quand même un cérémonial qui est assez commun à tous ces restaurants.
Le cérémonial, c'est de les recevoir. C'est de comprendre ce qu'ils veulent. Et après, on va leur faire à manger sur mesure. C'est ça la belle cuisine qu'on doit pratiquer aujourd'hui. Et c'est ça la cuisine du 21e siècle. Là, on parle de la cuisine du XXe siècle, c'est terminé.
Donc,
c'est la raison de la faillite de la plupart des restaurants.
Donc Michel et Sébastien Brass sont cuisine du XXe siècle.
Je ne sais pas, je n'ai pas mangé chez eux depuis longtemps, mais tel qu'elle le décrit, oui.
Il ne faut pas non plus.
Mais c'est un ensemble.
Je suis d'accord avec Bruno.
Quand on paye des prix comme ça, on ne vient pas juste manger, c'est ce que je dis.
Évidemment, peut-être qu'il y a dans un certain registre du restaurant, du grand restaurant classique à la française, ça a été déjà beaucoup dénoncé à l'étranger, ça a même fait l'objet d'un intense French bashing de la part de nos amis anglo-saxons, mais qui n'avait pas complètement tort lorsqu'ils mettaient le doigt effectivement sur certaines pesanteurs du grand restaurant français. Toutefois, j'ai tendance à penser que les choses évoluent. Bruno Verjus en est un brillant exemple, mais il y a beaucoup d'autres expériences, pour reprendre ce mot-là, où effectivement, un restaurateur prend soin de s'adapter au client, quelle que soit son origine, sa nationalité, sa classe d'âge, ses moyens financiers. Il y a ça aussi qui est important.
Le ticket moyen, par exemple, chez vous, Bruno Verjus, c'est quoi d'un
c'est
repas?
Un peu plus de 250 €, un ticket moyen, donc c'est très élevé.
Hein, j'ai regardé un petit peu ce matin un menu de dégustation, par exemple, dans un 3 étoiles chez Trois Gros, 530 € pour l'accord mets et vins, chez Guy Savoie, hors bois, 490 €. Yves Candebord, pour vous, c'est des prix qui encore ont une justification aujourd'hui ?
Justification, pour Guy Savoie, je connais l'établissement, je connais le lieu, je pense que sur les. Vous avez dit le prix, je ne l'ai pas retenu. Parce
530 paraît, euros chez Trois Gros, 490 €.
Tellement astronomique à payer, mais sauf que malheureusement, la matière première doit représenter peut-être que 10% du prix. Il est dans un lieu exceptionnel, il doit avoir un loyer exceptionnel, un décor exceptionnel.
Non, mais il emploie aussi 80 personnes.
Il emploie du monde. Donc voilà,
moi, j'emploie 14 personnes, ça représente 500 000 € par an de salaire et charge.
Donc, pardon, ce qu'on paye plus quand on est client dans ces restaurants-là, c'est le personnel plus que ce qu'on a dans l'assiette ?
Évidemment. Le premier poste de dépense d'un restaurant, entre guillemets, où on a un vrai service, où il y a du monde en cuisine, etc., où on peut du coup faire en cuisine ce qu'on a dans la tête, parce que ça nécessite des moyens, où on a un service, où on s'occupe de vous, le premier poste de dépense, ce sont évidemment les salaires et les charges.
C'est un tout petit peu démago, si je peux me permettre. Non, mais de jeter en pâture des prix d'addition.
Prix de menu.
Oui, non, mais en plus, je ne vous en fais pas du tout le reproche, Camille, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas réduire l'excellence d'un restaurant, effectivement, au prix d'une addition qui va choquer 9 auditeurs sur 10 derrière leur poste de radio, et ils auront bien raison.
Mais oui.
Mais comprendre l'écosystème d'un restaurant, comprendre ce qu'il représente aussi en termes de culture, et notamment de soft power au service de l'image de la France à l'étranger. Comprendre aussi que lorsque vous faites un sondage chez les Anglo-Saxons et nos amis américains, parmi les raisons de visiter la France dans les 3 motifs principaux, il y a toujours visiter un grand restaurant. Donc c'est aussi des retombées économiques, et j'ai envie de dire par ailleurs que un grand restaurant, si il fait payer à ses clients des additions élevées, c'est aussi parce qu'il ne mégote jamais sur le prix des matières premières qui sont en général de qualité exceptionnelle. On peut pas en dire autant de la grande distribution qui a fait des prix bas son espèce de combat au risque d'étrangler et de matraquer les producteurs. Si vous observez en France que là où il y a un fort dynamisme agricole et une agriculture de qualité, c'est précisément là aussi où il y a des grands restaurants étoilés qui ont les moyens de leur acheter leur matière première.
Tout cet écosystème, on continue la discussion sur ce débat de midi, la gastronomie. À qui sont réservées les grandes tables? Bougez pas, Yves Candebord, on revient dans un instant. C'est le thème de ce premier débat de midi réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Adrien Nazelli avec Thomas Gentil. Anne-Laure Cochet est à la technique et Nick Waterhouse.
My voice, and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking just like you got some notion? Do you see a mirror where I see it?
Nick Waterhouse était tout elle.
Le débat du midi. Sur France Inter.
Et à l'heure du déjeuner, on parle grande cuisine, gastronomie aujourd'hui dans le débat de midi avec mes invités, les chefs Chloé Charles, Yves Candebord, Bruno Verjus et l'ami François Régis Gaudry. Yves Candebord, vous ralliez un petit peu juste avant le disque sur le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on paye, ce qu'on disait tout à l'heure, on paye beaucoup la main-d'œuvre, hein, ce qui est normal, et le produit. Vous, c'est pour ça aussi que vous avez choisi de vous éloigner un petit peu de cette cuisine de palace, il y a déjà plusieurs années maintenant.
On paye la main-d'œuvre, tant mieux qu'on la paye la main-d'œuvre, parce qu'on en a quand même besoin, et j'espère qu'on la paye très très bien. Après, je pense pas que ce soit peut-être... je suis pas sûr que ce soit le point le plus cher, comme le dit Bruno, hein. Après, je pense que le loyer, la déco, l'argenterie, les assiettes, c'est des choix personnels du restaurateur là qui a envie de faire une prestation d'une qualité exceptionnelle. C'est un peu de la haute couture là qui est foncièrement obligatoirement réservée à une certaine élite. Il ne faut pas se voiler la face quand on entend les prix, c'est une réalité. Mais moi, je reviens encore sur le début du sujet. Bien manger, c'est quoi ? Manger, c'est l'émotion.
Oui.
C'est l'émotion.
Mais alors,
moi,
donc, ça veut dire, en vous écoutant, qu'il n'y a pas de différence entre un restaurant où on va très bien manger ou on va payer...
Je vais vous dire, j'ai plus souvent de l'émotion quand je mange à moins de 100 euros que quand je mange à 500 euros. C'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Parce que je reviens
un peu... Il n'y a pas de différence, pardon, mais on peut quand même rendre hommage à cette cuisine.
Non, je reviens sur ce qu'a dit Bruno tout à l'heure, qui est pour moi la chose la plus importante. C'est qu'il y a une cuisine instantanée, il y a une cuisine qui est millimétrée, qui est tirée à quatre épingles et qui est prévue pour être capable de reproduire à l'excellence pendant 365 jours.
C'est quoi ? C'est une sorte d'industrialisation,
c'est un peu excessif parce que ça reste quand même des cuisiniers, ça reste des artisans, mais c'est une cuisine qui est totalement maîtrisée et qui est vraiment, je pense, techniquement immanquable.
Allez, je vais vous laisser répondre, Bruno Verjus, mais d'abord, je veux savoir ce que Chloé et Charles en pensent.
Je finis juste un truc. Ce qui est important pour moi quand je vais dans un lieu, c'est pas sentir ni les rideaux, ni sentir les tableaux, ni sentir le service, c'est sentir la pâte du cuisinier.
Donc vous n'allez jamais chez les étoilés, vous, par exemple ?
Alors, j'y vais parce que c'est intéressant aussi à voir. J'y vais de temps en temps, mais rarement. Mais je préfère aller dans les endroits où il y a une sensibilité de cuisine, où il y a un cuisinier qui prend des risques en permanence, et ça arrive que ce soit un peu moins bien, mais c'est pas pour ça que ça m'enlève l'émotion.
Chloé Charles.
Moi, je pense que le problème, c'est le mot étoilé, parce qu'en fait, dans étoilé, c'est finalement, là, on parle donc du coup forcément du guide Michelin, et le guide Michelin a un style de cuisine propre à lui-même, et je pense qu'il y a des restaurants qui sont très haut de gamme, dans lequel moi je vais, mais je sais même pas combien est-ce qu'ils ont. Je sais qu'ils ont des étoiles parce que c'est des restaurants très très, enfin, qui sont réputés. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas ce que tu décris, Yves, sur ce côté figé de la cuisine. Il y a une cuisine qui est très cuisinée, très travaillée, et j'y vais pour passer un moment exceptionnel. Comme j'irai une fois par an à l'Opéra Garnier pour voir un spectacle exceptionnel. Et donc c'est particulier. Mais parfois, effectivement, dans cette cuisine étoilée, il y a beaucoup de restos, malheureusement, qui sont très figés.
Bruno Verjus, par rapport à ce que disait Yves Candebord et ce que vient de dire Chloé Charles.
Oui, je pense qu'on est à un moment où il faut rassembler, en fait, et pas forcément diviser. Et donc, la chance que l'on a aujourd'hui, c'est que la cuisine en France, elle est très polysémique. C'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer avec des jeunes chefs comme Chloé, qui amène une vision du monde qui est différent. Pour moi, je les appelle, vous savez, ces chefs finalement un peu nés de la malbouffe, c'est-à-dire moi je suis né à la campagne, j'ai été nourri toujours avec des très bons produits, beaucoup d'entre eux sont très urbains, ont mangé, etc. Et donc, amènent des choses avec des projets et des paysages complètement différents dans la cuisine française qui d'un seul coup nous ouvrent aussi des horizons nouveaux. Et puis il y a aussi ce qu'on décrivait tout à l'heure, ces très très grandes tables qui sont un peu sédimentées dans un certain nombre de pratiques qui sont plus les bonnes, où effectivement on préfère acheter des assiettes et de l'argenterie plutôt que des bons produits vivants, où on préfère pratiquer une cuisine mortifère plutôt qu'une cuisine du vivant, parce que c'est tellement compliqué de faire une cuisine du vivant. D'abord, ça nécessite que le chef soit présent. Donc, combien de 3 étoiles et dans les palaces, etc., y a-t-il des chefs qui font tous les services. Il n'y en a pas. Je veux dire, donc c'est ça aussi qu'on, d'une certaine façon, si on vous alliez, elle parlait de l'opéra, si vous allez au théâtre voir Isabelle Huppert et qu'on vous dit, ce soir, elle n'est pas là parce qu'elle a un truc privé à faire, mais vous verrez, sa remplaçante, elle est géniale, et que vous avez payé 300 euros de ticket, vous n'êtes pas d'accord, au restaurant, ça arrive tous les jours.
François-Régis Gaudry, on parlait rapidement des étoiles tout à l'heure. Est-ce qu'il y a 638 restaurants étoilés cette année en France, une trentaine de 3 étoiles, 534 une étoile et 74 2 étoiles pour être précise. Aujourd'hui, les étoiles, finalement, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait manger très bien dans des restaurants qui ne sont pas étoilés. Elles servent à quoi ?
Plus forcément à grand chose. Je pense que le guide Michelin traverse, on le sait, une crise existentielle depuis déjà quelques années et que aujourd'hui, la force que représente une, deux ou trois étoiles n'est plus forcément la même qu'il y a quelques décennies. Le guide Michelin fait un peu l'effet d'une vieille dame qui court avec son déambulateur derrière l'époque, là où avant le guide Michelin faisait vraiment le la de la gastronomie. Et par ailleurs, si on assiste effectivement à une certaine artificialisation de la grande cuisine, dans son côté un peu Disneyland de la gastronomie, qui moi-même, à titre personnel, si vous voulez mon avis, me fatigue un peu. C'est-à-dire que j'en ai fait énormément. Mm-hmm. Je vais peut-être passer pour quelqu'un d'un peu blasé, mais il est vrai qu'aujourd'hui, je vis plus souvent des expériences pesantes que des expériences vraiment intéressantes. Toutefois, je pense qu'il ne faut pas mettre tous les restaurants étoilés dans un même sac, parce qu'il y a encore, je crois savoir que Bruno a d'ailleurs une étoile. C'est toujours le cas, tu as une étoile.
Une étoile,
pour le moment, oui.
Ah oui. Et tu mériterais même de grimper un peu plus dans les étoiles.
Il y a du renouveau.
Voilà. Je voudrais pas qu'on soit dans la caricature de penser que d'un côté, faudrait couper la tête des grands chefs, comme il faut supprimer l'ENA, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, les restaurateurs sont dans leur tour d'ivoire quand ils y sont encore. Tu as raison, Bruno, parce qu'il y a aussi ce problème de l'absentéisme des grands chefs.
À qui vous pensez dans ces cas-là ? Est-ce que...
Alors, il y a des chefs qui sont artisans et qui ont toujours été là, fidèles au poste. La plupart du temps, quand vous allez chez un chef qu'on apprécie tous, je pense autour de cette table, un certain Alain Passard, il était assez rare qu'il soit effectivement absent de ce qu'il appelle non pas son restaurant, mais sa maison de cuisine. Ou quand il est absent, c'est pour de bonnes raisons, c'est qu'il est dans ses potagers, effectivement, ses 3 potagers dans le Perche, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a effectivement des chefs qui se considèrent avant tout comme de grands artisans et qui incarnent une façon de manger ou une façon de cuisiner dans la spontanéité, en faisant une cuisine que j'appelle moi de l'instinct et de l'instant, alors que d'autres chefs sont dans des partitions effectivement millimétrées, très quadrillées, très programmées. Et ça, en général, on arrive maintenant à percevoir un peu les ficelles de cette orchestration quand on fréquente ces grandes tables.
Alors justement, pour revenir sur la pression aussi que peuvent mettre les étoiles, on va écouter l'un des plus grands chefs qui ont témoigné en février 2003, juste après le suicide de Bernard Loiseau. C'est Paul Bocuse, chef triplement étoilé à l'époque.
Vous savez, ces guides, c'est même moi, si vous voulez, à 30 ans, on attend les guides, à 80 ans, on attend encore les guides. Donc on est toujours sous pression, parce que perdre une étoile, perdre Guémillo, pour moi, c'est moins important, parce que Guémillo, pour moi, c'est pas sérieux. C'est un métier, il y a un spectacle 2 fois par jour, midi et le soir, et puis on est toujours là, sous pression, essayer de bien faire. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 30 ans.
Une Chloé Charles, une étoile, ça vous ferait rêver, vous, aujourd'hui ?
Pas du tout. Puis je pense qu'en plus... si on me la donnait, je trouverais ça assez intrusif. Après, j'ai aussi pas envie d'avoir de restaurant, justement pour ce que disait François-Régis sur le fait que j'ai aussi envie de pouvoir faire plein de choses différentes. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ma cuisine ne sera jamais aussi bien représentée que quand elle sera gérée par moi-même. Et donc, j'ai aussi si j'avais un restaurant, je serais à 100% dedans. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime ce mot gourmande libre. C'est parce que je fais plein de choses différentes. Quand je vais faire à manger à des clients, comme ça m'est arrivé ce week-end, c'est moi qui fais à manger à 100%. Parfois, j'emploie parfois des gens pour m'aider quand c'est des plus gros dîners. Mais du coup, c'est moi qui leur ai fait à manger. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi.
Yves Candebord, vous avez déjà eu une étoile, vous ?
Non, jamais.
Vous a manqué ?
Alors, ça m'a manqué. Je vais vous dire la vérité. Je les ai quittés parce que j'avais fait toute ma carrière professionnelle dans les 2 et 3 étoiles. Ouais. Donc, et puis, je pense que je suis quand même un peu comme Bruno. On fait partie encore de la génération Michelin. Et avec l'importance que Michelin pouvait avoir... Voilà, dans le paysage culinaire français, j'ai quitté ça justement parce que cette pression m'empêchait d'exister et je me rongeais de l'intérieur. Voilà, donc j'ai préféré dire, écoutez, j'arrête, je vais faire un bistrot où je serais plus décontracté. Mais alors, j'ai craché dessus, je me suis fâché avec eux parce que je pense que dans les années 90, ils ne se sont pas renouvelés du tout. Alors, ils sont quand même passés à côté de toute une génération qui avait pris un chemin différent du théâtre traditionnel français. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a besoin de Michelin. Alors moi, je veux dire pourquoi on a besoin de Michelin.
Ouais,
parce que c'est encore les derniers qui sont français, qui sont indépendants et qui font encore rêver un peu le monde entier. Quoi. Il faut le reconnaître.
Même plus si à l'étranger qu'en France. Voilà. Oui, mais je trouve assez fair-play avec
mais,
un guide.
Ouais, parce que
moi, je pense que le déclin du Michelin, ou en tout cas sa déconnexion par rapport 90. À la gastronomie réelle,
ouais, je sais bien.
C'est précisément l'émergence de la bistronomie.
Ouais, parce qu'ils nous ont
de la grande gastronomie dans des petits bistrots qu'a incarné, il a été le chef de file, hein, le pionnier, qu'a incarné Yves Candebord, vous le rappeliez. Et c'est là où le Michelin s'est trouvé face à une nouvelle réalité. Ah, mais alors, est-ce que c'est dans la catégorie. Exactement. Est-ce que c'est dans la grande. Est-ce qu'on met ça dans la catégorie la gastronomie, parce qu'effectivement, il y avait toutes les techniques apprises dans les brigades de restaurants et de palaces. Ou est-ce qu'on met ça dans la catégorie des bistrots? Ben non, bistronomie, c'était ni l'un ni l'autre. Et là, le Michelin a, à mon avis, loupé le virage. Le virage de prendre en compte, ils auraient dû récompenser. Ils l'ont fait trop tard et avec un manque de sincérité.
N'oublions pas, je prends l'exemple du vin. Le vin, à un moment donné, ça a flotté. Il faut le dire, les revues françaises ont flotté. Il y a un gars qui est arrivé, qui s'appelle Parker, avec un goût américain, qui avait les finances, et il a totalement déstabilisé le marché du vin français. Il a mis la panique, il a mis un goût américain, et à un moment donné, le vin français ne ressemblait plus à rien.
Et il a envoyé Bordeaux dans le mur.
Et il a envoyé Bordeaux dans le mur. Michelin, au moins, ils ont ce goût français. On les aime ou on les aime pas, si ringard, si has-been, mais c'est notre France. C'est notre
c'est une référence, comme
et
vous disiez.
Je préfère les avoir à eux qu'avoir un Chinois qui arrive, avec des pétrodollars, qui est capable de mettre de l'argent pour faire un guide et qui nous fasse complètement dévier de notre chemin français. Alors, je crois que Michelin, aujourd'hui, a beaucoup d'erreurs, mais je pense quand même qu'il se renouvelle. Moi, je le vois, de l'extérieur. Bruno a eu une étoile Michelin.
Alors,
il y a 10 ans, 20 ans, Bruno, il n'aurait jamais eu une étoile Michelin. Alors, c'était sûr et certain.
Chloé Chal, rapidement, et après, je voudrais poser une question à Bruno Verjus.
Dans le paysage d'aujourd'hui.
Mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont capables de faire à l'étranger. Par exemple, il y a des tables japonaises qui ont des étoiles Michelin.
Il y a plus de premières étoiles. Il y a plus de trois étoiles Michelin au Japon qu'en France.
On n'est pas capable de reconnaître le travail de certains chefs qui ont des plus petits restos et qui sont pourtant exceptionnels. C'est dommage quand même.
Bruno Verjus, je vous entendais tout à l'heure, vous disiez aujourd'hui les étoiles, on les donne aux stars de la télé, aux jeunes de la télé.
Oui.
Les émissions comme Top Chef, dont vous n'êtes pas issu de Top Chef, d'ailleurs Chloé Charles, hein, vous travailliez bien avant Top Chef, mais vous y avez participé. Mais ces émissions-là ont quand même énormément participé à faire émerger certains chefs et aussi à démocratiser encore un petit peu plus la grande cuisine. Vous aimez pas ce genre d'émissions?
C'est-à-dire Top Chef et grande cuisine, c'est un truc qui
mais oui, mais c'est ce qu'on voit à la télé. Hein, ils sont pas en train de nous faire une omelette ou des pâtes au beurre, hein, sur Top Chef, hein. C'est des plats, on connaît même pas les noms tellement ils sont pompeux parfois.
C'est ça, c'est peut-être le problème, je ne sais pas. Non, mais si vous voulez, à un moment, il faut arrêter. La cuisine, c'est pas un putain de spectacle. La cuisine, c'est un métier. La cuisine, c'est de la rigueur. La cuisine, c'est être consistant, c'est être présent. C'est réjouir. Moi, j'ai 30 personnes par service. C'est réjouir 30 personnes par service. Et contrairement à ce que disait Chloé tout à l'heure, c'est pas faire la cuisine tout seul. C'est faire la cuisine en équipe parce qu'on a un devoir de former justement des jeunes cuisiniers. Chez moi, ils ont entre 23 et 20, enfin, ils ont plus entre 26 et 28 ans aujourd'hui. Ils viennent de grandes maisons et ils viennent chez moi parce qu'ils veulent partager une philosophie, apprendre une technique disruptive et savoir faire la cuisine à la minute. Et en ça, on fabrique de la cuisine à l'instant pour réjouir nos clients et en même temps, on fabrique des générations de cuisiniers qui vont aller réjouir le monde parce qu'ils viennent du monde entier en France comme nos clients pour apprendre. Et c'est ça notre métier, c'est être consistant, c'est pas faire le show.
Mais
à
vous
la
dites
télévision.
La cuisine c'est pas un putain de spectacle, alors on va attendre les réactions, mais la cuisine est un putain de spectacle
non,
de toute façon
tout.
Dans les télés. Première émission télé culinaire en 1954 et donc dans les foyers, c'était Art et magie de la cuisine avec Raymond Oliver et Catherine Langer.
Ah, aujourd'hui il me semble que la recette.
Voulez-vous me donner de l'huile, je vous prie, Catherine.
Rapidement exécutée.
Ah, faut aller assez vite, oui.
De l'huile dans une casserole.
De l'huile dans une casserole, dans cette huile, pour ne rien changer à mes habitudes. J'ajouterai un morceau de beurre.
C'est la recette des riz comment?
Alors ça, c'est des riz au Kérès. Et maintenant, je laisse simplement colorer cette farine au chaud. Et puis immédiatement, je m'en vais mouiller. Vin blanc tout de suite. Et voilà, les deux plats préparés, voilà, terminés.
Je crois vraiment qu'ils ne sont pas compliqués à faire. Oui. Excellente recette et bon appétit.
Voilà, c'était sur la première chaîne de l'ORTF, émission diffusée entre 54 et 67. Je reviens sur ce que vous disiez, Bruno Verjus, et je voudrais entendre les réactions d'Yves Candebord, par exemple. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la cuisine doit rester dans un restaurant et ne pas s'inviter dans les foyers de certaines personnes.
Je vais vous donner ma réponse qui est très personnelle, mais par rapport au vécu que j'ai. Moi, j'ai commencé à 14 ans. À 14 ans, j'ai 2 ans d'avance à l'école. Je dis, je veux arrêter, je vais faire cuisinier. On m'a dit, t'as que les cancres, que les ânes qui font ça. Je l'ai quand même fait. Je l'ai fait 90, je le mets dans les années 90. On nous a donné la possibilité d'aller parler à la télé. On nous a la possibilité de dire que les cuisiniers, les manuels en général, la main, pouvait être intelligente et jouissive. Donc on y est allé. Alors moi j'ai commencé comme ça. On était fiers de représenter la main, fiers de représenter l'artisanat. Et ça a quand même fait un boom médiatique. Aujourd'hui, je pense que les cuisiniers, la preuve, je suis là à France Inter, et on passe dans tous les médias, on est reconnus. On n'est pas simplement les mauvais garçons, les cancres de base, comme on pouvait appeler à l'époque les graisseux. Voilà, on a un métier qui est noble et on a revalorisé l'ensemble des métiers de la mer. Alors, je vais poser une question à Bruno parce que Bruno, on se connaît depuis 40 ans. Bruno, est-ce que tu aurais changé de vie réellement s'il n'y avait pas eu tout cet engouement, cette ouverture qu'il y a eu sur la restauration? Est-ce que tu aurais fait restaurateur? Est-ce que tu es capable de savoir?
J'ai répondu dans mon livre, je crois que j'ai écrit un livre
pour
ça.
Je l'ai commandé,
c'est pour ça. Tu n'as pas eu la réponse.
C'est ça aussi, quoi.
Je crois fondamentalement qu'il y a plusieurs choses. Mais si tu veux, là, bien sûr que c'est intéressant pour les cuisiniers de passer dans les médias, mais là, on ne parle pas de médias, on parle d'émissions instrumentalisées par le spectacle.
Mais qui sont regardées par du monde.
Justement.
3,5 millions de personnes qui regardent la finale de Top Chef, c'est énorme.
Très bien.
On est peut-être dans l'abus, mais il fallait quand même passer par là.
Si vous voulez, ces gens-là sont intoxiqués. Honnêtement, sur des fausses valeurs, je crois que c'est ça. Pourquoi j'ai fait la cuisine? Parce que j'ai adoré manger, parce que je suis né à la campagne et que j'ai été implémenté par des saveurs, par des goûts, par des choses qui m'ont touché. Et qu'à un moment, c'est-à-dire moi, je suis quand même, contrairement aux apparences ici, le plus jeune cuisinier. J'ai commencé il y a 8 ans. J'ai 8 ans de cuisine.
C'est pour ça que je dis ça.
Et donc, du coup, bah oui, je l'ai fait parce que j'étais dans cet immeuble-là à faire une émission avec mon ami Alain Crugère qui s'appelait On ne parle pas la bouche pleine pendant 4 ans. Et à un moment.
Vous faisiez une émission aussi alors?
Comment?
Vous avez participé au spectacle? Non, puisque vous faisiez une émission.
J'étais pas cuisinier. J'étais pas cuisinier. Et à un moment, à force de recevoir des invités, leur faire parler du monde vu de leur ventre, qui n'étaient pas des cuisiniers, qui étaient des acteurs, des metteurs en scène, des architectes, des écrivains, etc., je me suis dit, mais c'est bien d'en parler, mais moi, je veux planter des graines de ma philosophie. Et la seule façon de le faire, c'est nourrir. C'est pour ça que j'ai écrit L'Art de nourrir.
On va juste laisser répondre Chloé Charles quand même, puisque vous avez participé en l'occurrence à Top Chef cette année. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça peut être un vrai vecteur de démocratisation, de donner envie, de donner à comprendre et à voir tout ce monde-là?
Alors, je vais rester assez mitigé là-dessus, parce que en fait, c'est une sacrée aventure Top Chef, mais c'est vrai qu'on est tous des professionnels ultra aguerris. Et le niveau est de plus en plus haut dans Top Chef, donc on fait des plats qui sont pour la plupart pas forcément compréhensibles. Enfin, moi je sais que quand j'ai annoncé à ma famille que je faisais Top Chef, on m'a dit « Ah, c'est génial, j'adore cette émission, je comprends rien à ce qu'ils font, mais je m'éclate. » Donc, et ça, je crois que c'est... Enfin, c'est
dans du rêve.
Ça vend quand même du rêve. Après, pousser les gens à cuisiner chez eux, se poser des questions sur l'alimentation, avoir envie de découvrir des produits qui sont différents, c'est important. Et ce genre d'émission y participe, donne envie à des gens, on parlait de haute gastronomie tout à l'heure, ça donne envie à des gens d'économiser pour pouvoir aller manger dans des restaurants dans lesquels ils seraient jamais allés s'ils n'avaient pas regardé ce genre d'émission. Donc je pense que ça fait avancer les choses. Après, tout est toujours à...
Après, c'est de la télé.
Avec des inserts de publicité, avec tous les groupes les plus dégueulasses de l'agro-industrie qui sont les sponsors. Et donc, ils travaillent en plus dans l'émission, eux, quand ils font la cuisine, des produits de merde. Voilà, c'est formidable.
Je ne serais pas aussi sévère que Bruno.
On précise que vous participez à Top Chef, c'est-à-dire vous animez la deuxième partie de soirée à chaque fois, on précise.
Mais alors, on est dans la deuxième partie de soirée, justement, elle a vocation à mettre en lumière, c'était ma condition pour y participer, des produits du terroir issus de l'agriculture du vivant. Et en l'occurrence, on n'est pas sur les produits de merde évoqués par Bruno.
Alibi.
Même si ça peut poser un problème, bien sûr. Mais après, il y a l'économie aussi des médias qui fait que, moi j'étais journaliste pendant 14 ans à l'Express. Évidemment, vous avez de temps en temps des papiers qui sont juste en face de pages de pub de marques que vous ne cautionnez pas ou que vous ne consommez pas. Ça, c'est un peu aussi l'économie des médias, en effet. Mais je pense qu'il ne faut pas prendre Top Chef pour plus que ça n'est. C'est-à-dire, c'est une émission bon enfant, familiale, populaire, qui a effectivement beaucoup de succès depuis 12 saisons et qui a le mérite de mettre en avant le métier de cuisinier tel qu'il est pratiqué aujourd'hui par une nouvelle génération talentueuse de cuisiniers et de cuisinières. D'ailleurs, issus d'origines différentes aussi, c'est une manière de montrer que la gastronomie, ça peut être aussi un moteur d'intégration.
D'ascenseur social.
C'est assez intéressant. Et par ailleurs, je pense que Top Chef ne ment pas vraiment aux très nombreux fans qui regardent l'émission et qui éventuellement pourraient avoir la vocation de cuisinier en regardant le programme. C'est que, bah justement, ça décrit pas, on laisse pas croire que le métier de cuisinier peut se pratiquer d'un claquement de doigts, mais on voit que c'est un métier au contraire. Les gens y arrivent déjà aguerris, qui demandent des sacrifices, des efforts, de la persévérance, de l'endurance, du mentoring ou du coaching, entre guillemets, de grand chef, dont on s'est inspiré des techniques, etc. Donc, en cela, les fausses valeurs, après, effectivement, je pense que la cuisine ne se réduit pas à une compétition géante, mais par contre, Top Chef s'est inspiré d'une dimension compétitive qui existe aussi dans la cuisine française et qui l'a poussé vers l'excellence. Le Michelin n'est autre qu'un système méritocratique. Les concours des meilleurs ouvriers de France, je crois que toi-même t'étais impliqué dans le concours Tétinger.
Je suis jury.
Voilà, ce que je veux dire, c'est que la dimension compétitive elle fait partie aussi évidemment du jeu de la gastronomie.
On n'est plus vraiment dans la compétition, on essaie de faire évoluer les mentalités. Et je vous rassure, quand on a fini les plats chez table, on ne lève pas les mains.
Hein. Ça peut être un concept. Allez, on continue et j'attends comme d'habitude les questions, les témoignages de vous, chères auditrices, chers auditeurs, sur l'application France Inter, et sur Twitter et la page Facebook du Débat de Midi.
Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Tu feras quoi ? Si t'étais moi, t'en m'aimerais pas. Plus large que ça, si t'étais moi. Si t'étais moi, tu feras quoi ? Tu ferais quoi ? Tu ferais quoi ? Si t'étais moi, t'en m'aimerais pas. Plus large que ça, si t'étais moi. Si t'étais moi, facile de regarder. Secouer mes rêves comme au rodéo, facile de lâcher des mots, aisé de regarder l'heure et de moquer mes nombreuses erreurs, aisé de rabaisser mes valeurs, aisé de casser mon cœur. Tu ferais quoi, tu ferais quoi, tu ferais quoi, si t'étais moi, t'en m'aimerais pas, plus large que ça, si t'étais.
T'étais moi et la programmation musicale est signée Valentine Chedebois.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et nous sommes, oui, à table aujourd'hui pour ce premier débat de midi de l'été. Table virtuelle, hein, dommage parce que j'ai des pros de la cuisine tout autour de moi. Les chefs Chloé Charles, Yves Candebordes, Bruno Verjus et François-Régis Gaudry. Qui me permet de faire d'ailleurs, François-Régis, des trucs très bons chez moi avec vos vidéos.
Ah, merci.
Qui sont assez accessibles justement pour rebondir sur ce qu'on disait.
Mais c'est je me prends pas pour un chef ceci étant.
Top Chef, on regarde, on se dit, on n'y arrivera jamais. On n'essaye même pas d'imiter ce qu'ils sont en train de faire à la télé. Il y a quand même des émissions ou des vidéos grâce aux réseaux sociaux qui permettent d'essayer de faire certaines choses. C'est un outil de transmission, c'est un vecteur aussi.
Oui, et puis moi je le fais avec, comment dire, vraiment beaucoup d'humilité. J'ai pas de formation de cuisine, je n'ai pour moi que ce que j'ai vu dans les jupons de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère en Corse. Et je pense que c'est aussi une très très belle formation parce qu'elle a en plus cette dimension affective, sentimentale, familiale, qui moi me touche beaucoup. Donc c'est des recettes du quotidien, très simples à pratiquer. Et puis je suis un picoreur de nature parce que la curiosité, c'est par définition mon métier. Donc l'idée, c'est aussi d'aller picorer chez les grands chefs où j'ai eu de très belles émotions, des techniques ou des inspirations pour les simplifier et les vulgariser un peu.
Yves Candebordes, Bruno Verjus, c'est pas demain que vous allez nous faire un petit selfie vidéo pour nous expliquer comment faire
Bruno, vous êtes très belle vidéo pendant le confinement. Et j'étais même en train de me dire que Bruno, qui justement nous racontait avec beaucoup de verve, de poésie et d'érudition l'amour de certains de ses produits, nous parlait de la Saint-Jacques de plongée ou du navet de Perdéan. Top Chef t'inviterait un jour pour justement transmettre. Non mais ce serait, je le dis en toute sincérité, t'aurais tort de refuser.
Moi j'ai fait ça pendant le premier confinement, tous les jours, en prenant le parti de ne pas le faire. Mais simplement parce que, vous savez, le principe, Alain Chapelle, la cuisine c'est bien plus que des recettes. Ouais. Et donc, encore une fois, là on est à la radio. La radio c'est justement l'évocation des saveurs, comme il le fait dans son émission, de paysages, d'univers. Donc je racontais des recettes en partant de produits ou en partant d'inspiration ou d'idées, ou simplement de choses pratiques, de qu'est-ce qu'on avait dans le placard, et je racontais comment on pouvait le faire. Et ça a été dingue, parce que je l'ai fait de façon très consistante tous les jours, et il y a eu des témoignages magnifiques, et après, on m'envoyait les photos de ce que les gens qui l'avaient entendu faisaient, et c'était génial, parce que c'était évidemment très différent de ce que j'aurais fait, mais c'était fantastique. Beau, ça avait l'air très bon et ils avaient tout compris de la cuisine.
Yves Candebordes, c'est important de transmettre la cuisine à travers éventuellement des réseaux sociaux et évidemment au restaurant. Qui sont vos clients aujourd'hui?
Alors transmettre la cuisine, je pense que c'est indispensable, mais pas que la cuisine, je pense qu'il faut transmettre tout ce qu'on nous a transmis, il faut le transmettre. On n'est pas pour la politique de la terre brûlée, j'espère que demain sera, j'ai des enfants, j'espère que demain sera bien plus beau et bien plus joyeux qu'aujourd'hui. Donc c'est indispensable. Alors mes clients, c'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde. Voilà, on a la chance d'avoir une carte qui est, je dirais, accessible au plus grand nombre. On peut aussi bien manger, je pense, un lièvre à la royale qu'un œuf mayonnaise, avec un prix d'œuf mayonnaise qui doit être à 7 ou 8 euros et le lièvre à la royale à 40 euros. Donc on donne la possibilité à tout le monde de venir déguster une cuisine, passer un moment. Voilà, je suis pour un lieu où socialement il y a une réunion. Voilà, il y a une réunion où les gens.
Il y a un brassage.
Il y a un brassage très important, autant je dirais de social et surtout aussi par rapport à l'âge. C'est important pour moi parce que je crois qu'un restaurant, avant tout, c'est un lieu qui doit vivre et surtout un lieu où on doit venir en toute simplicité, se sentir à l'aise le plus rapidement possible.
On a un message sur Twitter de Delphine qui nous écrit: pour nos 20 ans avec trois amis, nous avions décidé d'aller chez Georges Blanc. Pour cela, on a économisé pendant des mois. On a pris le menu dégustation, un super moment. On a été chouchoutés comme pas possible. François-Régis Gaudry, ça arrive et heureusement qu'il y ait des gens qui cassent véritablement leur tirelire pour s'offrir un repas dans un restaurant gastronomique.
Et c'est d'ailleurs une exception sociologique française. C'est très important. Lorsque je vais dans un restaurant 2 ou 3 étoiles, je ne suis pas entouré que de couples qui viennent du Texas et qui ont les moyens entre guillemets, de se taper la cloche ou d'être à côté de jeunes Français qui pratiquent le métier de banquier ou d'avocat. Il y a aussi des clients plus modestes qui effectivement économisent et cassent leur tirelire alors à mesure et à la hauteur de leurs moyens pour s'offrir un moment d'exception. Et ça reste aussi important.
Bruno Verjus, vos clients, c'est qui? Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait énormément d'Américains.
Oui, moi j'ai une clientèle étrangère qui a toujours été très très présente, pas depuis l'ouverture, mais à 2-3 ans après l'ouverture. Mes clients, ils sont très variés. J'ai des clients, évidemment, qui ont des moyens illimités, j'ai des clients modestes. Chez moi, et c'est ça, je crois, aujourd'hui, la modernité dans la belle cuisine et dans un restaurant étoilé, c'est qu'on peut venir et décider de partager 2 entrées. J'ai pas de problème avec ça, d'accord ? On vient pas pour faire entrée, plat, dessert ou le grand menu dégustation. Bien sûr que majoritairement, on vient pour ça. Mais si on vient prendre simplement deux entrées à partager chez moi, non seulement on va bien les recevoir, mais en plus, je vais leur prendre la main et leur glisser deux, trois assiettes pour leur faire goûter d'autres choses et faire de leur moment un moment extraordinaire, nonobstant le fait qu'ils vont peut-être payer que 40 ou 50 euros. Et c'est ça notre métier, c'est recevoir, donner du plaisir et être dans une grande générosité de comportement.
Avec un accueil sur mesure.
Avec un accueil complètement sur mesure.
Chloé
évidemment.
Charles, c'est quoi les enjeux pour vous de la gastronomie aujourd'hui ? Est-ce que finalement tout ce monde-là est dans l'époque, si on doit le dire comme ça ? En tout cas, est-ce que ça correspond à ce que cherchent les clients ?
Enfin, comment dire ? Alors ça peut être dans l'époque, ça peut aussi être ancré dans la tradition. Après, tout dépend de ce qu'on vient chercher et d'où l'importance de savoir exactement où est-ce qu'on met les pieds. Quand on parlait de Guy Savoie tout à l'heure, qui est à la Monnaie, forcément, on va dans un 3 étoiles très traditionnel et on vient chercher la tradition avec tout ce que ça implique dans un lieu emblématique de Paris. Et ça peut être très chouette. Enfin, je veux dire, si moi je suis... Voilà, je viens chercher ça, pourquoi pas. Et après, quand on va chez Alexandre Couillon à la Marine, on vient chercher quelque chose de radicalement différent parce que on vient chercher un cuisinier qui est quarantenaire, qui bouscule les, enfin qui fait une cuisine qui est beaucoup plus jeune, qui est beaucoup plus instinctive, qui est en direct sur le port avec des produits marins ultra frais. Et donc on se fait un petit peu plus secouer. Et je pense que il faut juste avoir conscience de là où on va exactement et cette gastronomie, elle est sans arrêt en mouvement, mais je trouve que c'est dommage de vouloir sans arrêt la mettre forcément dans des cases à travers, à travers forcément un seul guide, un seul type de cuisine et compagnie.
Et on précise qu'il y a d'ailleurs un maillage territorial assez important. Là, vous êtes tous à Paris parce que c'était aussi pour des raisons de venir en studio. Mmh. Mais il y a des grands restaurants partout en France.
Mais ce qui fait aussi la force de la gastronomie française, évidemment, à part le fait que ça, elle s'appuie sur un terroir hors norme et très diversifié. C'est la grande pluralité des offres de restauration qui sont proposées. Et là, je crois que la gastronomie française reste particulièrement dynamique.
Allez, on finit avant de se quitter par le mini-débat. Allez, je vais appeler ça comme ça. Une question liée au débat du jour et pour laquelle, alors là, tout le monde, tous les gens qui nous écoutent ont un avis, c'est sûr. Aujourd'hui, je vous la pose à tous, vous allez me répondre. Fromage ou dessert, Chloé Charles ?
Les deux.
Les deux.
plutôt fromage que dessert d'ailleurs, mais non, mais les deux.
Bruno Verjus.
Mais oui, évidemment, les deux. Vous savez, là... La belle cuisine, justement, c'est ne pas donner le choix, c'est combler.
Fromage ou dessert, oui, les deux. Mais par contre, moi, j'ai un peu une petite détestation pour le fromage qui se prend pour un dessert.
Ah, c'est vrai.
C'est-à-dire que le fromage cuisiné, j'ai toujours tendance...
Quoi, par exemple ?
De temps en temps, il y a certains chefs qui mettent, vous savez, il y a certains chefs qui mettent dans l'assiette davantage l'ego que les goûts. Voilà. Mmh. Et quand certains chefs prennent un Saint-Marcellin qui n'a rien demandé à personne et en font une espèce de tartine mousse. Traficotée ou de mousse, qui mettent ça dans un siphon pour en faire une chantilly ou je ne sais quel. Voilà. Il est vrai que les fromages cuisinés ont tendance à me poser un problème et je suis très rarement confronté à des expériences.
Mais là, ça devient l'égout, mais avec un L apostrophe.
Oh, les formules. Yves Candebord, fromage ou dessert?
Non, mais les deux, le fromage, c'est non, mais le fromage, pas ça passe. On est le pays du fromage, on a une diversité de fromages extraordinaire en France, et le dessert, le sucré, je pense que c'est la pointe, la fin de tout repas, de tout beau repas, de tout repas gourmand.
Votre dessert préféré, c'est quoi ?
Oh, mon dessert préféré, non, mais j'ai rien de préféré, j'aime
tout.
D'ailleurs, la vraie question, c'est pourquoi mettre le dessert à la fin, d'ailleurs?
Oui.
Sachez en tout cas qu'on a fait un sondage sur Twitter, fromage ou dessert, 212 votes, c'est pas si mal, hein, vous auriez pu être plus nombreux, mais c'est pas mal. 67,5% pour le dessert, 32,5% pour le fromage.
Donc,
pour les deux, zéro. Pour les deux, là c'était fromage ou dessert. C'est le dessert qui l'emporte. Je suis bien d'accord, moi c'est les profiteroles, je vote. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Vous allez manger quoi pour le déjeuner, en un mot ?
Un chirachi chez Ibisou.
Je mange pas, j'ai pas le temps.
Oh, il mange pas.
Je saute le déjeuner en général.
J'ai pas le temps vu l'heure, il faut que je parte.
Mais c'est pas possible, on vient de parler de nourriture et on saute le repas. Allez, bon après-midi, merci beaucoup.